Et alors que l'opération militaire à Gaza prend une autre forme, c'est donc à la frontière nord qu'Israël doit maintenant se défendre, eh bien voici ce qu'en pense Daniel Haber, il est comme chaque semaine au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme tous les lundis matins, nous conversons et cette année 2024, nous la commençons ensemble. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre au sud, mais aussi au nord, non?
Alors oui, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses qui se passent au nord. On parle du Hezbollah, on parle d'un certain nombre d'autres attaques qui viennent d'Israël. On voit que les chancelleries s'agitent autour du danger qui vient du nord. Donc on peut avoir le sentiment qu'on bascule de guerre, qu'on va du sud vers le nord, mais en réalité, donc le sud continue. C'est là qu'il y a la guerre, vrai. Et il faut quand même dire un mot de la guerre à Gaza. Elle avance, si vous voulez, dans le plan que s'était fixé Tsahal. On a l'impression qu'on est quand même en train de passer, sans qu'on le dise, de la phase 1 à la phase 2, c'est-à-dire une phase où on bombarde moins, il y a moins de morts, il y a moins d'agitation médiatique d'ailleurs autour de ça, où on voit que les combats ont lieu de façon plus rapprochée, hein, on parle de bataille corps à corps dans les rues de Gaza. On voit aussi qu'on parle aussi de retirer des troupes de Gaza, parce qu'on n'a pas besoin de troupes israéliennes en surnombre à Gaza. Peut-être qu'il faut justement les préparer pour le nord, on va en reparler. On voit que le nord de Gaza est sous contrôle total d'Israël, ça y est, que le sud, c'est là qu'on concentre les bombardements autour de Rafah. C'est la frontière avec l'Égypte et on ne veut pas qu'il y ait des risques d'échappement des dirigeants ni de débordement de civils qui rentreraient en Égypte et que la bataille se fait au centre. Et c'est peut-être là, au centre de Gaza, que se trouvent à la fois les dirigeants du Hezbollah et les otages. Donc on est dans cette configuration et les tunnels sont toujours là, ils sont pas tous découverts, ils sont pas encore détruits parce que à l'intérieur il y a le Hezbollah, mais il y a le Hamas, mais il y a aussi des otages. Et donc cette destruction des tunnels, c'est pour la phase 2, celle qui va nous occuper peut-être toute l'année 2024. Voilà, voilà pour le sud.
Nous avons parlé du sud avec le Hamas comme ennemi. Au nord, il y a le Hezbollah.
Alors au nord, on a beaucoup d'ennemis en réalité pour Israël. Il y a le Hezbollah bien sûr, qui est une filiale de l'Iran, qui a été complètement inventée, installée par l'Iran. Ce sont des Libanais, mais ils sont chiites, ils sont très proches de, ils ont une dévotion pour l'Iran. Ils voudraient faire au fond du Liban une nouvelle république islamique. C'est ça le projet. Et on voit qu'ils ne sont pas encore entrés en guerre parce que l'exemple de Gaza quand même est fort. Ils voient ce qui est arrivé à Gaza et ce qui peut arriver à ce qu'on pourrait appeler le Hezbollah Land, c'est-à-dire tout le sud du Liban. Et donc, ils font très attention. Mais il n'y a pas que le Hezbollah au nord. Il y a aussi les milices du Hamas qui sont accueillies par le Hezbollah. Et puis, il y a aussi des milices pro-iraniennes en Syrie, et des milices pro-iraniennes en Irak, qui attaquent à la fois Israël et en Irak, les bases américaines. Il y a eu 200 attaques sur des bases américaines, ce qui met les Américains un peu dans le coup, et on va en reparler. Donc, si vous voulez, on a une situation où Israël voit bien que le Hezbollah n'ose pas trop aller trop loin, et ça permet à Israël d'aller plus loin dans la provocation, d'une certaine manière, comme l'assassinat du numéro 2 de Hamas en plein cœur de Beyrouth. Et Israël n'a pas peur de la réplique, ce qui veut dire que quand même les choses sont sous contrôle grâce aux Américains. Donc voilà un petit peu le paysage du Nord si on regarde ce qu'on appelle l'axe chiite, mais le patron de l'axe chiite, il faut en parler, c'est l'Iran. Et on voit bien que l'Iran aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est lui qui a déclenché tout ça. Donc je rappelle que l'attaque du Hamas le 7 octobre, c'est pas une question palestinienne comme on a voulu le faire croire et comme d'autres chancelleries font semblant d'y croire, c'est une question iranienne. Et donc on voit que l'Iran joue sous tout ça et que l'Iran hésite quand même à entrer en guerre. L'espoir de l'Iran, c'est que les Américains n'appuient pas Israël, mais les Américains sont déjà présents militairement, ils sont présents très fort aux côtés d'Israël, les visites sont incessantes, Blinken revient en Israël, et donc l'Iran se dit là que c'est pas Israël tout seul qui serait en face d'eux, mais ça serait Israël et les États-Unis. Donc on voit que le Nord est très prudent. Voilà.
Nous reviendrons sur la présence des États-Unis, mais d'abord, nous parlons de l'Iran qui soutient les rebelles houthis.
Alors, non seulement il les soutient, mais au fond, on peut dire que les Houthis, c'est un peu le Hezbollah du Yémen. Ils ont été créés et financés et armés par l'Iran. Je crois qu'ils sont en train de commettre une erreur, parce qu'en s'en prenant à la liberté de navigation, parce que c'est ça dont il est question, c'est pas seulement à Israël, mais c'est au fond à l'ensemble de la communauté des affaires. Ils touchent un nerf très important aux États-Unis, c'est le business. Et donc, toucher au business, c'est un casus belli. C'est pour ça que les Américains sont entrés en guerre en 1917, parce que les sous-marins allemands coulaient leurs bateaux. Ils sont entrés en guerre en Deuxième Guerre mondiale parce que les Japonais leur avaient attaqué leur flotte qui permet justement d'assurer la liberté de navigation. Donc là, c'est un casus belli. Et donc les Houthis risquent de prendre beaucoup et l'Iran aussi. Donc là aussi, je pense qu'il y aura, disons, une joute limitée.
On est comme dans chaque guerre d'ailleurs, on est en temps de négociation. Les États-Unis se sont rendus en Israël, la France se rend en Israël. Où en est-on dans tout ça?
Ben oui, le paysage que je viens de décrire, c'est que c'est une opération militaire sous contrôle à Gaza. Des escarmouches qui sont en fait des négociations sous forme d'attaque militaire, mais en fait c'est une négociation, c'est une communication. Le Hezbollah dit nous ne laisserons pas tomber le Hamas, mais nous allons pas les trouver. Donc il faut décoder un petit peu tout ce que veut dire ces opérations très limitées sur le plan militaire. Et donc c'est le jeu de la diplomatie. La France, elle a un seul objectif, c'est d'éviter que le Hezbollah aille trop loin, parce que la réplique d'Israël serait au fond de détruire Beyrouth, puisque c'est le centre névralgique du Hezbollah. Et donc ce serait la fin du Liban. Or la France, le Liban, c'est son dernier endroit où elle a encore une petite influence au Moyen-Orient. Donc elle essaye de sauver le Liban. Quant aux Américains, ils essayent d'éviter de ne pas entrer en guerre, parce ils sont là. On est maintenant, la bataille électorale bat son plein aux États-Unis. On sait que Trump mène la course en tête aujourd'hui. Donc Biden doit gérer cette campagne électorale, les démocrates aussi. Et donc les Américains vont tout faire pour éviter que le Nord dégénère. Et donc France et Américains, ensemble, vont essayer de faire en quoi? Au fond, il s'agit de repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani, c'est-à-dire quelques 20-25 kilomètres au nord de la frontière libano-israélienne, pour que, au fond, les Israéliens puissent revenir s'installer dans les villes du nord dont qu'ils ont quitté, hein, Kiryat Shmoné, Metoula, etc. Et donc, il est possible que le Hezbollah s'exécute et se recule, parce qu'ils auront compris que tactiquement c'est mieux. Je pense qu'en même temps qu'on négocie ce qui se passe au Liban, on regarde la relation avec l'Iran, et on commence aussi à parler de l'après-Gaza. Ce sera peut-être l'objet d'une autre conversation, parce que là il y a des différences de point de vue très 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 fortes.
Rapidement, Daniel Bern, nous arrivons à la fin de nos conversations. En 2 minutes, que faire pour 2024?
Écoutez, en 2024, on peut se dire que Gaza sera l'objet d'une sorte de semi-occupation militaire israélienne, pour tranquillement se défaire. Alors, en espérant évidemment la fin du Hamas d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire soit une fuite des dirigeants, soit leur capture ou leur mort. Donc l'année 2024 sera consacrée à détruire les tunnels, parce qu'il faut surtout ne pas les laisser, parce que d'autres milices ou le Hamas lui-même pourraient revenir et les utiliser. Donc il y aura la destruction. Ça prend beaucoup de temps, parce que c'est des opérations très lourdes. Sur le nord, je pense qu'on va avoir cet équilibre très fragile, où au fond le nord continuera à jouer une sorte de nuisance à la tranquillité de la région, et les Américains persuaderont les Israéliens d'avoir un peu de patience, d'accepter ces escarmouches au nom d'éviter une guerre totale en année électorale. C'est un petit peu ça ce qui risque de se passer, quoi. Une année d'attente qui sera très riche en opérations militaires au sud et en opérations diplomatiques au nord. Mais tout ça, c'est le plus important, c'est que Israël et les États-Unis, ensemble, en 2024, rétablissent leur crédibilité. Dans crédibilité politique, géopolitique, militaire, pour pouvoir très vite organiser le post-Gaza, ce qu'on fait de la question palestinienne, mais tout ça soit fait dans le cadre de la reprise des négociations avec l'Arabie Saoudite, parce que c'est ça que tout le monde attend, et la reprise, au fond, d'une immense alliance entre les États-Unis, Israël et les pays arabes sunnites face à l'Iran. Voilà un petit peu le paysage de 2024.
Eh bien, nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur ce paysage de 2024. Daniel Haber, merci beaucoup pour ces conversations et on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument.